Jules Verne. Le village aérien. Chapitre 2. Les feux mouvants. Une distance de 2 kilomètres au plus séparait le tertre des sombres massifs au pied desquels allaient et venaient des flammes fuligineuses et vacillantes. On aurait pu en compter une dizaine, tantôt réunies, tantôt isolées, agitées parfois avec une violence que le calme de l'atmosphère ne justifiait pas. Qu'une bande d'indigènes eût campé en cet endroit, qu'elle s'y fût installée en attendant le jour, il y avait lieu de le présumer. Toutefois, ces feux n'étaient pas ceux d'un campement. Ils se promenaient trop capricieusement sur une centaine de toises au lieu de se concentrer en un foyer unique d'une halte de nuit. Il ne faut pas oublier que ces régions de l'Oubangui sont fréquentées par des tribus nomades venues de l'Adamaoua ou du Bagirmi à l'ouest ou même de l'Ouganda à l'est. Une caravane de trafiquants n'aurait pas été assez imprudente pour signaler sa présence par ces feux multiples se mouvant dans des ténèbres. Seuls des indigènes pouvaient s'être arrêtés à cette place. Et qui sait s'ils n'étaient pas animés d'intentions hostiles à l'égard de la caravane endormie sous la ramure des tamarins. Quoi qu'il en soit, si de ce chef quelque danger la menaçait, si plusieurs centaines de Pawins, de Fauns, de Chilou, de Bari, de Denkas ou autres n'attendaient que le moment de l'assaillir avec les chances d'une supériorité numérique, personne, jusqu'à 10h30 au moins, n'avait pris aucune mesure défensive. Tout le monde dormait au campement, maîtres et serviteurs, et ce qui était plus grave, les porteurs chargés de se relever à leur poste de surveillance étaient plongés dans un lourd sommeil. Très heureusement, le jeune indigène se réveilla. Mais nul doute que ses yeux ne se fussent refermés à l'instant s'il ne s'était dirigé vers l'horizon du sud. Sous ses paupières demi-closes, il sentit l'impression d'une lumière qui perçait cette nuit très noire. Il se détira, il se frotta les yeux, il regarda avec plus de soin. Non, il ne se trompait pas. Des feux épars se mouvaient sur la lisière de la forêt. Langa eut la pensée que la caravane allait être attaquée. Ce fut de sa part tout instinctif plutôt que réfléchi. En effet, des malfaiteurs se préparant au massacre et au pillage n'ignorent pas qu'ils accroissent leurs chances lorsqu'ils agissent par surprise. Ils ne se laissent pas voir avant, et ceci se fut signalé. L'enfant, ne voulant pas réveiller Max Hubert et John Cort, rampa sans bruit vers le chariot. Dès qu'il fut arrivé près du fort Loper, il lui mit la main sur l'épaule, le réveilla et du doigt lui montra les feux de l'horizon. Camille se redressa, observa pendant une minute ces flammes en mouvement et d'une voix dont il ne songeait point à adoucir l'éclat. « Urdax !» dit-il. Le Portugais, en homme habitué à se dégager vivement des vapeurs du sommeil, fut debout en un instant. « Qu'y a-t-il, Camille ?» « Regardez !» Et le bras tendu, il indiquait la lisière illuminée au ras de la plaine. « Alerte !» cria le Portugais de toute la force de ses poumons. En quelques secondes, le personnel de la caravane se trouva sur pied, et les esprits furent tellement saisis par la gravité de cette situation que personne ne songea à incriminer les veilleurs pris en défaut. Il était certain que sans Langa, le campement eût été envahi pendant que dormaient Urdax et ses compagnons. Inutile de mentionner que Max Hubert et John Cort, se hâtant de quitter l'entre-deux des racines, avaient rejoint le Portugais et le fort Loper. Il était un peu plus de 10h30, une profonde obscurité enveloppait la plaine sur les trois quarts de son périmètre, au nord, à l'est et à l'ouest. Seul le sud s'éclairait de ses flammes falotes, jetant de vives clartés lorsqu'elles tourbillonnaient, et dont on ne comptait pas alors moins d'une cinquantaine. « Il doit y avoir là un rassemblement d'indigènes, » dit Urdax. et probablement de ces Bujo qui fréquentent les rives du Congo et de l'Ubangi. Pour sûr, ajouta Camis, ces flammes ne se sont pas allumées toutes seules. Et, fit observer John Cort, il y a des bras qui les portent et les déplacent. Mais, dit Max Hubert, ces bras doivent tenir à des épaules, ces épaules à des corps, et de ces corps nous n'apercevons pas un seul au milieu de cette illumination. Cela vient de ce qu'ils sont un peu en dedans de la lisière derrière les arbres, observa Camis. Et remarquons, reprit Max Hubert, qu'il ne s'agit pas d'une bande en marche sur le contour de la forêt. Non, si ces feux s'écartent à droite et à gauche, ils reviennent toujours au même endroit. Là où doit être le campement de ces indigènes, affirma le fort Loper. Votre opinion, demanda John Cort à Urdax, est que nous allons être attaqués, affirma celui-ci, et qu'il faut à l'instant faire nos préparatifs de défense. Mais pourquoi ces indigènes ne nous ont-ils pas assaillis avant de se montrer ? Des noirs ne sont pas des blancs, déclara le portugais. Néanmoins, pour être peu avisés, ils n'en sont pas moins redoutables par leur nombre et par leurs instincts féroces. Des panthères que nos missionnaires auront bien du mal à transformer en agneaux, ajouta Max Hubert. Tenons-nous prêts, conclut le portugais. Oui, se tenir prêts à la défense et se défendre jusqu'à la mort. Il n'y a aucune pitié à espérer de ces tribus de Lubangi. À quel point elles sont cruelles, on ne saurait se le figurer, et les plus sauvages peuplades de l'Australie, des Salomons, des Hébrides, de la Nouvelle-Guinée, soutiendraient difficilement la comparaison avec de tels indigènes. Vers le centre de la région, ce ne sont que des villages de cannibales, et les pères de la mission, qui bravent la plus épouvantable des morts, ne l'ignorent pas. On serait tenté de classer ces êtres, fauves à face humaine, au rang des animaux en cette Afrique équatoriale où la faiblesse est un crime, où la force est tout. Et de fait, même à l'âge d'homme, combien de ces noirs ne possèdent pas les notions premières d'un enfant de 5 à 6 ans? Et ce qu'il est permis d'affirmer, les preuves abondent, les missionnaires ont été souvent les témoins de ces affreuses scènes, c'est que les sacrifices humains sont en usage dans le pays. On tue les esclaves sur la tombe de leur maître, et les têtes, fixées à une branche pliante, sont lancées au loin dès que le couteau du féticheur les a tranchées. Entre la 10e et la 16e année, les enfants servent de nourriture dans les cérémonies d'apparat, et certains chefs ne s'alimentent que de cette jeune chair. À ces instincts de cannibale se joint l'instinct du pillage. Ils les entraînent parfois à de grandes distances sur le chemin des caravanes qu'ils assaillent, dépouillent et détruisent. S'ils sont moins bien armés que les trafiquants et leur personnel, ils ont le nombre pour eux, et des milliers d'indigènes auront toujours raison de quelques centaines de porteurs. Les Fort Loper ne l'ignorent pas. Aussi, leur principale préoccupation est-elle de ne point s'engager entre ces villages tels Gombedara, Kalakataimo et autres compris dans la région de l'Aoukadébé et du Bahar El Abiad, où les missionnaires n'ont pas encore fait leur apparition, mais où ils pénétreront un jour. Aucune crainte n'arrête le dévouement de ces derniers lorsqu'il s'agit d'arracher des petits êtres à la mort et de régénérer ces races sauvages par l'influence de la civilisation chrétienne. Depuis le commencement de l'expédition, le portugais Urdax n'avait pas toujours pu éviter l'attaque des indigènes, mais il s'en était tiré sans grand dommage et il ramenait son personnel au complet. Le retour promettait de s'accomplir dans des conditions parfaites de sécurité. Cette forêt contournée par l'ouest, on aurait atteint la rive droite de l'Ubangi et on descendrait cette rivière jusqu'à son embouchure sur la rive droite du Congo. À partir de l'Ubangi, le pays est fréquenté par les marchands, par les missionnaires. Dès lors, il y aurait moins à craindre du contact des tribus nomades que l'initiative française, anglaise, portugaise, allemande refoule peu à peu vers les lointaines contrées du Darfour. Mais lorsque quelques journées de marche devaient suffire à atteindre le fleuve, la caravane n'allait-elle pas être arrêtée sur cette route aux prises avec un tel nombre de pillards qu'elle finirait par succomber? Il y avait lieu de le craindre. Dans tous les cas, elle ne périrait pas sans s'être défendue, et à la voix du portugais, on prit toutes mesures pour organiser la résistance. En un instant, Urdax, le Forloper, John Court, Max Hubert furent armés, carabines à la main, revolvers à la ceinture, la cartouchière bien garnie. Le chariot contenait une douzaine de fusils et de pistolets qui furent confiés à quelques-uns des porteurs dont on connaissait la fidélité. En même temps, Urdax donna l'ordre à son personnel de se poster autour des grands tamarins afin de se mieux abriter contre les flèches dont la pointe empoisonnée occasionne des blessures mortelles. On attendit. Aucun bruit ne traversait l'espace. Il ne semblait pas que les indigènes se fussent portés en avant de la forêt. Les feux se montraient incessamment, et çà et là s'agitaient de longs panaches de fumée jaunâtre. « Ce sont des torches résineuses qui sont promenées sur la lisière des arbres. »« Assurément, » répondit Max Hubert. « Mais je persiste à ne pas comprendre pourquoi ces gens-là le font, s'ils ont l'intention de nous attaquer. » « Et je ne le comprends pas davantage, » ajouta John Court, « s'ils n'ont pas cette intention. » C'était inexplicable, en effet. Il est vrai, de quoi s'étonner du moment qu'il s'agissait de ces brutes du Haut-Oubangui. Une demi-heure s'écoula, sans amener aucun changement dans la situation. Le campement se tenait sur ses gardes. Les regards fouillaient les sombres lointains, de l'est et de l'ouest. Tandis que les feux brillaient au sud, un détachement pouvait se glisser latéralement pour attaquer la caravane grâce à l'obscurité. En cette direction, la plaine était certainement déserte. Si profonde que fût la nuit, un parti d'agresseurs n'aurait pu surprendre le Portugais et ses compagnons avant que ceux-ci eussent fait usage de leurs armes. Un peu après, vers 11 heures, Max Hubert, se portant à quelques pas du groupe que formaient Urdax, Camis et John Court, dit d'une voix résolue « Allons reconnaître l'ennemi. »«
Est-ce bien utile ?» demanda John Court. « Et la simple prudence ne nous commande-t-elle pas de rester en observation jusqu'au lever du jour ?»«
Attendre, attendre !» répliqua Max Hubert. « Après que notre sommeil a été si fâcheusement interrompu, attendre pendant 6 à 7 heures encore la main sur la garde du fusil ? Non. Il faut savoir au plus tôt à quoi s'en tenir. Et, somme toute, si ces indigènes n'ont aucune mauvaise intention, je ne serais pas fâché de me reblottir jusqu'au matin dans ce cadre de racines où je faisais de si beaux rêves.
« Qu'en pensez-vous ? » demanda John Court au Portugais qui demeurait silencieux.
« Peut-être la proposition mérite-t-elle d'être acceptée ? » répliqua-t-il. « Mais n'agissons pas sans précaution. »«
Je m'offre pour aller en reconnaissance, » dit Max Hubert, « et fiez-vous à moi. »
« Je vous accompagnerai, » ajouta le Forloper, « si Monsieur Urdax le trouve bon. »«
Cela vaudra certes mieux, » approuva le Portugais.
« Je puis aussi me joindre à vous, » proposa John Court.
« Non, restez, cher ami, » insista Max Hubert. « À deux, nous suffirons. D'ailleurs, nous n'irons pas plus loin qu'il ne sera nécessaire. Et si nous découvrons un parti se dirigeant de ce côté, nous reviendrons en toute hâte. »
« Assurez-vous que vos armes sont en état, » recommanda John Court.
« C'est fait, » répondit Camis. « Mais j'espère que nous n'aurons pas à nous en servir pendant cette reconnaissance. L'essentiel est de ne pas se laisser voir. »«
C'est mon avis, » déclara le Portugais.
Max Hubert et le Forloper, marchant l'un près de l'autre, eurent vite dépassé le tertre des tamarins. Au-delà, la plaine était un peu moins obscure. Un homme, cependant, n'y eût pu être signalé à la distance d'une centaine de pas. Ils en avaient fait 50 à peine lorsqu'ils aperçurent Langa derrière eux. Sans rien dire, l'enfant les avait suivis en dehors du campement.
« Hé, pourquoi es-tu venu, petit ?» dit Camis.
« Oui, Langa, » reprit Max Hubert, « pourquoi n'es-tu pas resté avec les autres ?»«
Allons, retourne !» ordonna le Forloper.
« Oh, monsieur Max !» murmura Langa. « Avec vous, moi avec vous !»«
Mais tu sais bien que ton ami John est là-bas !»«
Oui, mais mon ami Max est ici !»«
Nous n'avons pas besoin de toi !»
dit Camis d'un ton assez dur.
« Laissons-le, puisqu'il est là !» reprit Max Hubert. Il ne nous gênera pas, Camis. Et avec ses yeux de chat sauvage, peut-être découvrira-t-il dans l'ombre ce que nous ne pourrions y voir.
Oui, je regarderai, je verrai loin, assura l'enfant.
C'est bon, dit Max Hubert. Tiens-toi près de moi et ouvre l'œil.
Tous trois se portèrent en avant. Un quart d'heure après, ils étaient à moitié chemin entre le campement et la grande forêt. Les feux développaient toujours leurs clartés au pied des massifs, et moins éloignés se manifestaient par de plus vifs éclats. Mais si pénétrante que fut la vue du fort Loper, si bonne que fut la lunette que Max Hubert venait d'extraire de son étui, si perçant que fussent les regards du jeune chat sauvage, il était impossible d'apercevoir ceux qui agitaient ses torches. Cela confirmait cette opinion du Portugais que c'était sous le couvert des arbres, derrière les épaisses broussailles et les larges troncs, que se mouvaient ces lueurs. Assurément, les indigènes n'avaient pas dépassé la limite de la forêt, et peut-être ne songeaient-ils pas à le faire. En réalité, c'était de plus en plus inexplicable. S'il ne se trouvait là qu'une simple halte de noirs, ayant l'intention de se remettre en route au point du jour, pourquoi cette illumination de la lisière? Quelle cérémonie nocturne les tenait éveillés à cette heure?
Et je me demande même, fit observer Max Hubert, s'ils ont reconnu notre caravane et s'ils savent qu'elle est campée autour des tamarins.
Possible, répondit Camis. S'ils ne sont arrivés qu'à la tombée de la nuit, lorsqu'elle enveloppait déjà la plaine, comme nos foyers étaient éteints, peut-être ignorent-ils que nous sommes campés à courte distance. Mais demain, dès l'aube, ils nous verront. À moins que nous ne soyons repartis, Camis.
Max Hubert et le fort Loper reprirent leur marche en silence. Un demi-kilomètre fut franchi de telle sorte que, à ce moment, la distance jusqu'à la forêt se réduisait à quelques centaines de mètres. Rien de suspect à la surface de ce sol traversé parfois du long jet des torches. Aucune silhouette ne s'y découpait, ni au sud, ni au levant, ni au couchant. Une agression ne semblait pas imminente. En outre, si rapprochés qu'ils fussent de la lisière, ni Max Hubert, ni Camis, ni Langa ne parvinrent à découvrir les êtres qui signalaient leur présence par ces multiples feux.
« Devons-nous nous approcher davantage ?» demanda Max Hubert, après un arrêt de quelques instants.
« À quoi bon ?» répondit Camis. « Ne serait-ce pas imprudent ? Il est possible, après tout, que notre caravane n'ait point été aperçue, et si nous décampons cette nuit...
« J'aurais pourtant voulu être fixé !» répéta Max Hubert. « Cela se présente dans des conditions si singulières !»
Et il n'en fallait pas tant pour surexciter une vive imagination de Français.
« Retournons au tertre !»
répliqua le fort Loper. Cependant, il dut s'avancer plus près encore à la suite de Max Hubert que Langa n'avait pas voulu quitter. Et peut-être tous les trois se fussent-ils portés jusqu'à la lisière lorsque Camis s'arrêta définitivement.
« Pas un pas de plus !» dit-il à voix basse.
Était-ce donc devant un danger imminent que le fort Loper et son compagnon suspendirent leur marche? Avaient-ils entrevu un groupe d'indigènes? Allaient-ils être attaqués? Ce qui était certain, c'est qu'un brusque changement venait de se manifester dans la disposition des feux sur le bord de la forêt. Un moment, ces feux disparurent derrière le rideau des premiers arbres, confondus dans une obscurité profonde.
« Attention !» dit Max Hubert. « En arrière !» répondit Camis.
Convenait-il de rétrograder dans la crainte d'une agression immédiate? Peut-être. En tout cas, mieux valait ne pas battre en retraite, sans être prêt à répondre coup pour coup. Les carabines armées remontèrent à l'épaule, tandis que les regards ne cessaient de fouiller les sombres massifs de la lisière. Soudain, de cette ombre, les clartés ne tardèrent pas à jaillir de nouveau, au nombre d'une vingtaine.
« Parbleu ! » s'écria Max Hubert. « Cette fois-ci, si ce n'est pas de l'extraordinaire, c'est tout au moins de l'étrange !»
Ce mot semblera justifié pour cette raison que les torches, après avoir brillé naguère au niveau de la plaine, jetaient alors de plus vifs éclats entre 50 et 100 pieds au-dessus du sol.
Quant aux êtres quelconques qui agitaient ces torches, tantôt sur les basses branches, tantôt sur les plus hautes, comme si un vent de flamme eût traversé cette épaisse frondaison, ni Max Huber, ni le Fort Loper, ni Langa ne parvinrent à en distinguer un seul.
« Hé ! » s'écria Max Huber. « Ne serait-ce que des feux follets se jouant dans les arbres ?»
Camis secoua la tête. L'explication ne le satisfaisait point. Qu'il y eût là quelque expansion d'hydrogène en exhalaison enflammée, une vingtaine de ces aigrettes que les orages accrochent aussi bien aux branches des arbres qu'aux agrès d'un navire. Non, certes. Et ces feux, on ne pouvait les confondre avec les capricieuses furoles de Saint-Elme. L'atmosphère n'était point saturée d'électricité, et les nuages menaçaient plutôt de se résoudre en une de ces pluies torrentielles qui inondent fréquemment la partie centrale du continent noir. Mais alors, pourquoi les indigènes campés au pied des arbres s'étaient-ils hissés les uns jusqu'à leur fourche, les autres jusqu'à leur extrême branche? Et à quel propos y promenaient-ils ces brandons allumés, ces flambeaux de résine dont la déflagration faisait entendre ces craquements à cette distance?
Avançons, dit Max Huber.
Inutile, répondit le Fort Loper. Je ne crois pas que notre campement soit menacé cette nuit, et il est préférable d'y revenir afin de rassurer nos compagnons. Nous serons plus en mesure de les rassurer, Camis, lorsque nous saurons à quoi nous en tenir sur la nature de ce phénomène. Non, monsieur Max, ne nous aventurons pas plus loin. Il est certain qu'une tribu est réunie en cet endroit. Pour quelle raison ces nomades agitent-ils ces flammes? Pourquoi se sont-ils réfugiés dans ces arbres? Est-ce afin d'éloigner des fauves qu'ils ont entretenu ces feux?
Des fauves? Répliqua Max Huber. Mais panthères, hyènes, bœufs sauvages, on les entendrait rugir ou meugler. Et l'unique bruit qui nous arrive, c'est le crépitement de ces résines qui menacent d'incendier la forêt. Je veux savoir.
Et Max Huber s'avança de quelques pas, suivi de Langa, que Camis rappelait vainement à lui. Le Fort Loper hésitait sur ce qu'il devait faire dans son impuissance à retenir l'impatient français. Bref, ne voulant pas le laisser s'aventurer, il se disposait à l'accompagner jusqu'au massif, bien que, à son avis, ce fût une impardonnable témérité. Soudain, il fit halte, à l'instant même où s'arrêtaient Max Huber et Langa. Tous trois se retournèrent, dos à la forêt. Ce n'était plus les clartés qui attiraient leur attention. D'ailleurs, comme au souffle d'un subit ouragan, les torches venaient de s'éteindre et de profondes ténèbres enveloppaient l'horizon. Du côté opposé, une rumeur lointaine se propageait à travers l'espace, ou plutôt un concert de mugissements prolongés, de ronflements nasards, à faire croire qu'un orgue gigantesque lançait ses puissantes ondes à la surface de la plaine. Était-ce un orage qui montait sur cette partie du ciel et dont les premiers grondements troublaient l'atmosphère? Non, il ne se produisait aucun de ces météores qui désolent si souvent l'Afrique équatoriale d'un littoral à l'autre. Ces mugissements caractéristiques trahissaient leur origine animale et ne provenaient pas d'une répercussion des décharges de la foudre échangée dans les profondeurs du ciel. Ils devaient sortir plutôt de gueules formidables, non de nuages électriques. Au surplus, les basses zones ne se zébraient point de fulgurants zigzags qui se succèdent à courts intervalles. Pas un éclair au-dessus de l'horizon du nord, aussi sombre que l'horizon du sud. À travers les nues accumulées, pas un trait de feu entre les cirrus, empilés comme des ballots de vapeur.
« Qu'est-ce cela, Camis ?» demanda Max Huber.
« Au campement !» répondit le Fort Loper.
« Serait-ce donc ?» s'écria Max Huber.
Et l'oreille tendue dans cette direction, il percevait un claironnement plus distinct, strident parfois comme un sifflet de locomotive au milieu des larges rumeurs qui grandissaient en se rapprochant.
« Des talons !» dit le Fort Loper. « Et au pas de course !»